vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas,
Cinérama l'été.
On va s'enfourrer jusqu'à là.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
On se passe de l'actualité.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Je m'en fous.
Cinérama l'été, trois séries pour vous contenter.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival. Ça veut dire que cet été, on a décidé non pas de nous mettre en maillot de bain, ça on vous laisse le faire, mais on a choisi de faire trois séries, une sur le générique, et aujourd'hui, eh bien, je vous parlerai de Saul Bass une seconde fois, puisqu'il en était déjà question la semaine dernière, mais cette fois-ci, eh bien, je parlerai de collaborations qu'il a pu avoir avec de grands réalisateurs. Et puis, vous messieurs, vous avez chacun donc votre série. Toi, c'est les films de science-fiction qui ont vu 2024.
Oui, alors vu, c'est un grand mot parfois, hein, parce que les films sont plus ou moins, sortent à plus ou moins d'intervalle, hein, de cette échéance. C'est un peu le cas pour Underworld, le quatrième du nom, donc Nouvelle Ère.
Ça nous donnera l'occasion de ressortir un blind test de nos archives, celui consacré aux vampires. Et toi, Minute, tu nous parles d'un film fantastique français réalisé par une femme.
Et un film idéal en pleine saison estivale, puisqu'il s'agit de Blind Sun, qui se passe donc en Grèce sous un soleil de plomb.
Oui, et puis le précédent dont tu nous parlais la semaine dernière, Dark Touch, se passait en Écosse.
En Écosse, sous la pluie.
Voilà. Allez, c'est Cinérama qui commence.
Cinérama.
Cinérama. Chose.
Les réalisatrices françaises de films fantastiques.
Mais c'est le rêve des ménagères.
Ça doit être probablement spirituel, mais j'avoue que je n'y comprends rien du tout.
Blind Sun, hein, de Joss Nashawati, hein, un film singulier et maîtrisé, situe son action dans un futur proche, en Grèce, prenant pour cadre une situation sociale et politique pertinente qui évoque les événements contemporains du pays. La crise, présentée de manière allusive, sert de toile de fond à cet univers légèrement dystopique, plongeant le personnage principal en milieu hostile. Ashraf, un immigré solitaire, hein, dont on ne saura que très peu de choses, débarque dans une station balnéaire où l'eau devient une denrée rare. Il est embauché par une famille de Français pour garder leur somptueuse villa pendant leur absence. Alors à peine débarqué, les ennuis commencent. Il est arrêté par un flic antipathique, ouvertement raciste de par son comportement, qui lui confisque ses papiers. Il arrive ensuite chez ses employeurs, qui l'accueillent avec un mépris à peine dissimulé. Alors ce couple incarne de manière un peu trop ostentatoire l'idée qu'on se fait de la bourgeoisie parisienne condescendante et égoïste. La réalisatrice force le trait et semble manquer un peu de subtilité. D'autant que tous les personnages que rencontre Ashraf, hormis une jolie archéologue dans une séquence érotique de romans photo digne d'un giallo, sont antipathiques. Mais étrangement, cette volonté de placer le personnage au cœur d'une situation d'emblée compliquée et de se retrouver en position d'infériorité permet au spectateur de saisir la psyché du personnage, de ressentir son mal-être, sa difficulté à s'adapter dans un monde extérieur qui lui résiste en permanence.
Et vous faites quoi comme métier, en vrai? Vous êtes écrivain?
Non.
L'autre type était écrivain. Paresseux, alcoolique, et jamais rien publié. Bon. Vous connaissez le boulot. La maison reste propre, protégée. Vous ne touchez pas à mon whisky. Maxime ne boit que ça. Il a l'estomac fragile.
Je comprends.
Merde, la piscine. Vous la videz dès qu'on est parti.
Pas de problème.
Vous êtes armé?
J'en aime pas ça.
Ok, ça va. Je n'ai rien de précieux ici.
Blind Sun part d'un dispositif moins abstrait que le sujet pouvait le laisser envisager. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une réflexion sur la crise économique d'un pays, ni d'un pamphlet contre l'attitude des migrants. Mais Ashraf, excellent d'ailleurs, acteur excellemment interprété par Ziad Bakri, n'est pas une enveloppe vide, une figure allégorique de l'immigré type, mais un vrai personnage pour qui on ressent rapidement des émotions et un sentiment d'injustice. Alors dès lors qu'une menace invisible envahit progressivement l'espace de la vaste demeure, Blind Sun s'engouffre dans le pur cinéma de genre et déploie un fantastique insolite, enraciné malgré tout dans des références classiques qui iraient de Carpenter à Romero. Le climat anxiogène monte crescendo par petites touches. La réalisatrice refuse les effets faciles hein, et reste près de son personnage sans trop en dévoiler. Alors, bascule-t-il dans la folie, déboussolé par un environnement oppressif ? Est-il réellement menacé par une présence extérieure indicible ? La possible révélation finale donne un élément de réponse, même si là encore, on ne peut pas trop s'avancer sur les hypothèses tangibles. Alors, c'est un peu la limite de ce très beau film, assimilant parfaitement ses diverses influences, conscientes ou non. Alors, les films fantastiques australiens, mais aussi l'épouvante politique des 70s, et puis un cinéaste comme Jacques Tourneur, et puis un ton très personnel, tranchant radicalement avec le cinéma de genre contemporain.
T'es en Grèce depuis longtemps ?
Non, j'étais à Paris un an, pour les arômes longtemps, trop longtemps.
Pour travailler ?
Oui.
J'adore voyager. Je me sens chez moi partout.
Tu sais ?
Oui.
Il va y avoir une guerre, c'est sûr. Ou alors tout va brûler. Tout va brûler et disparaître.
Tu es défoncé. Ce n'est pas du tout le moment de penser à ça.
L'angoisse ne naît pas de l'obscurité, presque apaisante, au contraire, hein, la séquence de l'église où Ashraf vient se recueillir, mais de la luminosité. La chaleur, les éclats d'un soleil plombant, les traversées agressives de la lumière oscillant entre le jaune et l'orange sont autant de sources terrorisantes laissant apparaître la silhouette maléfique, jamais présente dans les séquences nocturnes. Alors le sentiment d'insécurité agit donc à ciel ouvert, permettant ainsi à la jeune réalisatrice d'exprimer son talent. Fortement épaulée par un chef opérateur grec hein, expérimenté, Georgios Arvanatis, qui est le chef-op d'ailleurs des films de Théo Angelopoulos, mais aussi de Liberté Oléron et Dorothy, un autre film fantastique français. Joyce Nachawati nous immerge à l'épicentre d'un cinéma dédié aux sensations grâce à une mise en scène inspirée, tant au niveau de la composition des cadres que des images obsédantes et jamais gratuites. Elle évite aussi les écueils d'un cinéma arty saturé de sa propre virtuosité. Alors si dans la deuxième partie, le récit devient parfois abscon, voire confus quand il abandonne certaines pistes, Blindson demeure un premier film remarquable, un objet sensuel et inquiétant, utilisant les éléments naturels à disposition, l'eau et le feu notamment, dans une optique créant le malaise. Alors comme seul Peter Weir s'en saisissait pour ses premiers films fantastiques. Alors voilà, Joyce Nachawati s'impose comme une cinéaste à suivre, et on remarquera au fil des films que je présente les influences de cinéastes qui reviennent souvent. C'est vrai que je parle souvent on s'aperçoit que ce cinéma fantastique féminin a des références assez, je ne vais pas dire homogènes, mais les noms de Dario Argento reviennent, Peter Weir revient, enfin, certainement des cinéastes aussi qui ont su un peu féminiser en fait l'approche du fantastique.
Très bonne conclusion. Nous reviendrons donc la semaine prochaine sur ce cinéma fantastique au féminin et à la française.
Et le film, pour terminer, il est disponible en VOD. Hein. Il est sorti sous aucun support physique, mais on le trouve, je crois, sur Canal+. Voilà.
Passons maintenant au générique de film. Continuons cette histoire.
Cinérama.
Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?
Une petite histoire du générique.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
La semaine dernière, nous avons parlé de la révolution apportée par Saul Bass au générique de film. Il n'avait plus pour seule fonction d'informer sur les participants à l'œuvre qu'on allait voir, mais le générique donnait une dimension narrative et artistique, évoquant l'histoire de manière métaphorique. La dernière fois, alors, nous sommes longtemps restés sur Alfred Hitchcock, profitant de la musique de Bernard Herrmann, mais maintenant, eh bien, évoquons d'autres collaborations de Saul Bass, et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il faisait beaucoup de choses avec sa femme. Voilà, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, on ne peut pas laisser de côté West Side Story, la comédie musicale de Robert Wise de 1961. Le film commence sur du noir, on entend que ça siffle, amorce de ce qui viendra par la suite. La musique de Leonard Bernstein se fait entendre avec une image fixe, des traits noirs sur un écran qui passe du orange à des couleurs de plus en plus sombres, du rouge, du violet, du bleu, et le titre qui apparaît au bout de 4 minutes 30 avant que nous ne survolions New York. Place ensuite à un prologue mettant en scène la bande des Jets et celle des Sharks. Il faut attendre plus de 11 minutes 30 avant d'entendre un mot.
Pars-toi.
Mais là, on peut considérer que le film a déjà commencé. Le générique de fin donnera l'occasion de donner les noms des participants au long métrage et il s'agira d'une succession de graffitis sur les murs. Pour Grand Prix de John Frankenheimer, Saul Bass use abondamment du split screen, vous savez cet écran partagé. Là, il le segmente en 4 images, puis 48 alors de pistons, de moteurs, de clés à molette, avec le son des V10 ou des V12 qui vrombissent. Alors là encore, Saul Bass nous laisse entrevoir ce que nous allons voir, soit 4 pilotes expérimentés qui se disputent le titre de champion du monde sur les plus grands circuits. Pour le réalisateur américain, il a réalisé une entrée en matière étonnante pour l'opération Diabolique en 66. Pour annoncer le thriller, il a choisi de placer une scène déformée d'un œil en gros plan, et cette idée sera reprise et augmentée pour Les Nerfs à Vif de Scorsese en 91. Pour ce dernier long métrage qu'il a préparé, l'image des yeux est mêlée à celle de la surface de l'eau.
Y a personne qui t'attend dehors? Et tes bouquins, tu les prends pas?
Garde-les, je les ai déjà lus.
Dans les premières années, le couple Bass, car il était bien aidé donc par sa femme, avait des idées un peu plus basiques mais efficaces, comme pour Shrike, qu'on va traduire par Ange ou Démon, en 1955. Alors pour ce générique, un ciseau vient découper une bande sur laquelle sont indiquées les mentions du film. Et 10 ans après, il reprend l'idée du papier dans Bunny Lake is Missing d'Otto Preminger. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est une main qui déchire le papier noir, faisant apparaître les participants au film. À la base, Saul Bass est un graphiste, c'est pourquoi ses génériques sont aussi graphiques, usant autant de l'image, du son que du symbole et du dessin. Il s'inspire parfois de grands artistes de son temps, comme Mark Rothko pour Anatomie d'un meurtre, ou Paul Klee et Gertrude Arendt pour 7 ans de réflexion, avec les petits carrés de couleurs qui composent l'image. L'inspiration sera aussi artistique pour Spartacus de Stanley Kubrick. Le générique montre un ensemble de sculptures, parfois montrées dans leurs détails, un visage, une main, un glaive, jusqu'à ce que des portraits apparaissent, le générique s'achevant sur une tête qui se fragmente. Il s'est passé alors 4 minutes avant que le titre du film n'apparaisse à l'écran. Parlons de la dernière création de Saul Bass. Vous savez quelle est-elle, cette dernière création ? Eh bien, c'est pour Martin Scorsese, pour Casino, en 1994. Avec sa femme, l'Américain a composé une séquence graphique élégante, brillante et baroque, qui suit directement une scène d'introduction où le personnage de Robert De Niro explose en démarrant sa voiture. Alors voilà le corps de De Niro tournoyant sans fin dans les flammes, comme s'il était pris dans les entrailles de l'enfer. Tout cela sur La Passion de Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach.
Quand on aime quelqu'un, il faut lui faire confiance. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il faut lui donner la clé de tout ce qui est à toi. Sinon, où est l'intérêt? Et pendant un temps, j'ai cru que cet amour-là, je l'avais.
Thank you.
tranquillement, le feu va laisser place au nerf du film de Casino, avec des images de laine multicolore, mais le corps va revenir et les flammes avec lui. Il se sera écoulé près de 3 minutes avant que ce film ne débute. Aidé de son épouse, donc Solbass a réalisé de nombreux génériques et de nombreuses affiches et même des storyboards qui sont restés célèbres, comme celui du meurtre de la douche de Psycho. Son œuvre est multiple et inspirée d'autres créateurs. C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de cette série consacrée au générique. Parlons maintenant de Loup-garou pour la série sur les films d'anticipation qui ont vu 2024.
Cinérama.
Attention, Cinérama. Tout le monde à l'écoute. Attention.
Comment certains films ont vu 2024?
Disons que c'est de la prémonition.
Prémonition. Prémonition.
Alors de loup-garou, mais aussi de vampire, hein, un petit peu comme si les portes de la SPA s'étaient ouvertes, hein, cet été très chaud. Alors le réalisateur Len Wiseman et son co-scénariste et acteur, hein, Kevin Greview, réussissent un joli petit coup en 2003 avec Underworld. Alors venu de nulle part, réalisé avec un budget très modeste, hein, c'est histoire de Roméo et Juliette entre une vampire et un loup-garou post-combinaison en cuir de Matrix au pays des monstres, mais fut un joli succès et a fait particulièrement vibrer les amateurs de jeux de rôle de White Wolf, hein, tant les similitudes des différents clans avec ceux de Vampire la Mascarade étaient visibles. Alors l'histoire de Sélène, la chasseuse de Lycan, terme désignant les loups-garous, qui tombe amoureuse de la nouvelle évolution de loups-garous, mais a su redynamiser un genre assez moribond, hein, au début du XXIe siècle, en surfant sur les tonalités du chef-d'œuvre des Wachowski, univers techno-gothique en plus.
Qui que ça puisse être, l'agresseur n'a pas pu aller bien loin.
Je vais alerter le CDC pour qu'ils prennent toutes les précautions, ils sont en route. C'est pas un humain qui a fait ça.
Vous n'en savez rien.
Je sais pas quoi. Ce mec a été réduit en bouillie. On a retrouvé sa gorge dans le caniveau.
Ça, c'est à moi d'en décider.
Qu'est-ce qu'il y a à décider? C'est la signature d'un Lycan, ça se voit.
Inspecteur, à quand remonte le dernier crime commis par un Lycan?
Je sais pas, quelques années.
Et depuis combien d'années faites-vous partie de mon équipe?
De quoi vous parlez? Je bosse ici depuis 3 mois.
Oui, c'est ce que je dis. Vous me contredirez quand vous en saurez plus que moi. C'est clair?
Oui, très clair.
Succès oblige, suite indispensable. Et qui dit univers technologique mis en avant, dit bon en avant. Donc jetons un coup d'œil au résumé officiel de l'opus qui nous intéresse ici, le 4, hein, qui fait des pieds et des mains pour ne rien raconter, car en fait il ne sait pas trop ce que le film raconte vraiment. Alors jugez plutôt. Depuis des siècles, Lycans et vampires se livrent une bataille sans merci. Mais les deux races sont à l'aube d'une ère nouvelle, car les humains, qui ont récemment découvert leur existence, décident de cesser leur conflit interne pour s'engager ensemble dans la lutte contre ce qu'ils considèrent être des fléaux. Sélène s'attire la convoitise de l'armée et des scientifiques. Une traque incessante commence alors contre la plus redoutable des vampires. Alors dans les faits, hein, y a quand même franchement beaucoup plus à dire. Alors que le précédent film nous renvoyait dans le passé, hein, celui-ci nous plonge dans le futur de 2024. Un futur assez sombre et terne. 12 ans, hein, se sont écoulés depuis la défaite du vilain Marcus. Congelé, hein, durant toutes ces années, Sélène se retrouve ainsi seule, hein, face à un nouveau problème. La découverte de sa fille. Ça aussi, hein, quand on ne sait pas trop comment faire une suite, on fout un enfant, hein, au héros. Cet opus met donc tout d'abord en place une relation maternelle plutôt que la relation passionnelle déjà existante, hein, et qui aurait été franchement redondante. Michael, hein, ainsi que tous les autres personnages des précédents épisodes sont d'ailleurs brutalement écartés de l'histoire dès le début, mais pour laisser place aux nombreux nouveaux venus. L'intrigue, quant à elle, s'apparente plus à celle du premier film, notamment dans son approche scientifique, entre guillemets, des mythes. La mise en scène, hein, dorénavant plus orientée vers l'enquête policière, supprime la aspect gothique de l'univers ainsi que celui presque SM des Lycans pour en créer une plus neutre et bureaucratisée à l'image de ses nombreux futurs assez proches, hein, où la déshumanisation prenait le pas sur l'humain. Nouvelle ère, hein, porte donc bien son nom en faisant table rase des précédents, en supprimant l'ambiance même de la saga et ses personnages récurrents pour créer un film d'action plus contemporain.
Le prisonnier qui m'a aidé à m'échapper, celui que vous avez appelé sujet 2, est-ce que c'était un hybride?
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez avec nous?
On aidait le gouvernement à identifier les gens infectés. On utilisait votre ADN pour trouver un remède et empêcher une autre épidémie.
On t'a dit que je vous conduirais à l'hybride. Pourquoi?
Le sujet 2 est classé confidentiel. Je n'ai pas accès à son dossier.
Tu mens.
C'est qu'il y a comme une connexion entre vous deux. Vos ondes cérébrales sont synchronisées quand vous êtes à proximité. Vous pouvez voir avec les yeux de l'autre. Non, ne faites pas ça. C'est moi qui vous ai laissé sauter dans le vide.
Alors nous sommes quittes.
Nous avons donc face à nous un qui tout double. Pourquoi qui tout double ? Parce qu'Underworld, c'est un premier film sympathique, un second plus franchement bien fichu, qui double en ratio gothique et spectaculaire tout ce qu'avait planté le premier, un troisième opus qui souffre de la maladie du « quoi qu'on fait en troisième film, une suite ou une préquelle ?» Bingo, c'est une préquelle. Et donc, suite à cette préquelle pas forcément désagréable, mais qui, à la manière d'un Rogue One, ne sert absolument à rien si ce n'est de vous tirer en 1h50 ce qui avait été résumé précédemment et verbalement en 15 secondes, et bon, ok, à donner le premier rôle à la somptueuse Rhona Mitra, il fallait décider quoi faire. Alors, bonheur, les producteurs ne se sont pas dégonflés et se sont dit qu'ils allaient mettre les moyens pour montrer les enjeux et donc des scènes spectaculaires. Alors, la carte du quasi non-stop est de sortie et Kate Beckinsale se dépasse au point d'être toujours plus physiquement impliquée que lors des précédents opus. Au niveau du casting, on a le bonheur de voir Stéphane Rea qui revient aux affaires avec des dents pointues depuis Entretien avec un vampire. Et puis, il y a l'exceptionnel Charles Dance, que tous les jeunes ont connu grâce à Game of Thrones, mais qui fut l'exquis homme de main psychopathe d'Anthony Quinn et véritable méchant du chef-d'œuvre de John McTiernan, Last Action Hero.
Mon père dit que, si par chance notre espèce devait survivre, ces reliques aideront nos descendants à comprendre qui nous étions et comment nous vivions.
Et qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que si nous continuons à vivre comme nous vivons actuellement, nous déshonorerons le passé et nous ne méritons pas l'avenir. Nous devons résister aux humains, en tout lieu et à chaque fois que c'est possible.
Entre la première et la deuxième épuration, les jeunes Lycans se sont opposés de la même façon à la prudence de leurs aînés. Leurs appels à la violence ont fini par être entendus. Résultat, les loups-garous sont aujourd'hui en voie d'extinction. Est-ce cela que tu souhaites pour nous, l'extinction ? Et tu amènes sa progéniture chez nous ? Crois-tu sincèrement que les humains vont la laisser libre d'aller et venir ? Ils vont la traquer à n'importe quel prix.
Nous pouvons les protéger, justement.
Les protéger ? Elles s'en vont dès ce soir.
Ce n'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté, ni plus ni moins.
Comment oses-tu ?
Et comment osez-vous ? Restez là sans réagir.
Scénaristiquement, on ne va pas chercher une grande révolution, mais on peut s'empêcher de sourire lorsqu'on comprend la logique des scénaristes quant à l'élaboration de leur climax. Bon les gars, on en est au quatrième opus. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut faire plus grand, plus fort, plus méchant. Alors, on n'a qu'à faire un combat entre Célène, la vampire, et un loup-garou. Ouais, mais bon, ça a déjà été fait. Ce qui serait bien, c'est que cette fois, ça soit un très très gros loup-garou. Ce sera le Hulk des loups-garous. Donc voilà, et ce n'est pas une blague, quand vous risquez de manquer d'idées, il faut juste passer à la vitesse supérieure. Underworld Nouvelle Ère prend donc sens en salle quand la grande taille de l'écran, projection en 3D d'ailleurs à l'époque, permet à cette gigantesque bestiole de l'enfer d'essayer de boulotter notre héroïne qui, vous vous en doutez, arrivera à le stopper. Même si on parle de 2024, il y aura des suites. Il fallait bien presser le citron jusqu'à la dernière goutte et c'est ainsi qu'en 2016, un ultime opus jusqu'à aujourd'hui verra le jour. Alors, Underworld Blood Wars boucle à sa manière la boucle, car on avait parlé de Charles Dance popularisé aux yeux de la jeune génération par Game of Thrones. Ce cinquième opus est réalisé par Anna Forrester, une transfuge de la petite lucarne qui n'aura jamais brillé d'une quelconque manière. Ce Blood Wars est indigent, digne justement du plus mollasson épisode de remplissage d'une série Netflix, et ce malgré le fait extrêmement intéressant et prometteur que, pour une fois, les aventures de Selene soient mises en scène par une femme qui aurait pu y apporter son regard justement féminin. Donc on préférera ce gros loup-garou de nouvelle ère et son fun décomplexé.
Merci Guillaume. Underworld Nouvelle Ère est disponible en VOD et DVD Blu-ray. Alors ce film nous donne l'occasion de réécouter un vieux blind test que nous avions consacré aux vampires au cinéma.
Cinérama. Cinérama.
En installant tous les équipements et le matériel nécessaire, en enregistrant des programmes en stéréo.
Nous sommes des informateurs qui utilisons les renseignements de tous nos collègues.
Rediffusion.
Un blind test spécial vampire au cinéma. Alors autant dire qu'il y a plein de films, il y a les films, tous les films de la Hammer, mais il n'y en aura aucun de la Hammer. Voilà, c'est ceux qui ont suivi. On va écouter un premier extrait, c'est assez facile, c'est un film très contemporain.
Comment tu as pu arriver aussi vite ?
J'étais juste à côté de toi, Bella.
Non, tu étais devant l'entrée, de l'autre côté.
Je t'assure que non.
Je t'assure que si.
Bella, tu t'es cogné la tête. Tu dois confondre.
J'ai tout vu, j'étais là.
Bon, alors dis-moi ce que tu as vu.
Tu as stoppé ce van, tu l'as repoussé de la main pour l'arrêter.
De toute façon, personne ne te croira.
Je n'ai pas l'intention d'en parler. Je veux seulement savoir la vérité.
Si tu essayais de me remercier et d'oublier...
Je te remercie.
Tu n'as pas l'intention d'oublier?
Non.
Dans ce cas, j'espère que tu aimes les déceptions.
Alors, c'est Kristen Stewart qui est séduite par Robert Pattinson. Ce sont les voix françaises de ces deux acteurs. Et Manu, c'était évidemment...
Twilight.
Voilà. Et ça, c'était pris dans le premier film Twilight, puisqu'il y en a eu 5 quand même.
C'est le seul que j'ai vu, et encore pas en entier, je crois. Ouais.
Moi, j'ai vu que celui-ci. Effectivement, ça m'a servi de leçon pour la suite. On écoute un nouvel extrait. Donc, il faut trouver donc un film de vampire.
Le sang et ses affections. Oui, telles que la syphilis, voilà ce qui nous intéresse. Leur nom même de maladies vénériennes, les maladies de Vénus, leur attribue une origine divine. En fait, elles trouvèrent naissance dans tous les problèmes sexuels dont le règlement éthique constitue le fondement de la civilisation judéo-chrétienne. En fait, la civilisation et la syphilisation ont progressé de concert.
La syphilisation, et c'est pas ça qui t'a permis de trouver. C'est peut-être la voix française d'Anthony Hopkins qui t'a mis sur la voie, c'est...
Le Dracula de Coppola.
Voilà, Francis Ford Coppola, non, film de 92.
Je me rappelle un peu de la séquence, en fait.
Ouais.
Mmh. C'est passé dans l'hôpital psychiatrique, non?
Oui, bah, là, il fait un cours, hein, en fait. Hein, c'est Van Hensling, je crois. Hein, c'est
Van Hensling.
Ouais, voilà. Et donc, film de 92, 3 Oscars, mais 3 Oscars mineurs plutôt, hein, pour Francis Ford Coppola. Alors, l'intérêt de ce film, hein, c'est que c'était une mise en avant de l'aspect érotique du roman de Bram Stoker. Et puis, bien, au casting, quand même, on retrouve Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins, et même Tom Waits et Monica Bellucci, qui apparaît, qui est une des servantes, du comte Dracula. Voilà, un nouvel extrait.
As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait endurer? Tu as tué la femme que j'aimais, et tu as fait de moi une créature immonde.
On ne va pas en parler sans s'étendre.
Enfermé dans une boîte pendant 200 ans!
N'exagère pas, cela n'a duré que 196 ans.
Ça a duré une éternité. Je vais te faire juger pour sorcellerie, tu seras lapidé!
C'est pas le... non.
Oh, ben bah vas-y, tente.
Non, je pensais à Tim Burton.
Oui, Tim Burton, tout à fait.
Dark Shadows, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est Dark Shadows.
D'accord.
Ouais. Ouais, on sent le côté un peu comédie. Hein. C'est Johnny Depp qu'on entend avec Eva Green en blonde sorcière. Donc là, voilà, lui, il est vampire et elle, c'est une sorcière. Un nouvel extrait avec un film particulier.
Les premiers signes de déformation physique ont été l'allongement des oreilles. Les fonctions mentales telles que la logique, les émotions, les facultés langagières dans leur presque totalité se sont détériorées beaucoup plus rapidement que vous et votre équipe ne l'aviez présumé, messieurs les docteurs. Là-dehors, ces rats de tunnels, ces créatures souterraines sont sur le point de devenir un vrai problème. Messieurs, nous sommes en train de mourir de faim. Et selon les dernières statistiques, il ne reste plus que 5% de la population humaine.
Ce dont il est question en ce moment, c'est de l'extinction de la race humaine.
Ce dont il est question, c'est le fait que nous avons à peine assez de sang pour nourrir notre population jusqu'à la fin du mois.
Ah oui, un conflit moral, hein, donc ?
Je ne sais plus.
Alors ça,
je l'ai vu, hein, c'est sûr.
C'est un monde assez particulier, c'est Daybreakers.
Ah oui, avec Ethan Hawke.
Avec Ethan Hawke.
Presque un film post-apocalyptique, en fait.
Oui, hein, tout à fait. Mais une très belle réussite. Hein. Moi, j'avais été vraiment bluffé par ce film, Daybreakers, de Peter et Michael Spierig. C'était sorti en 2010 et on termine avec un dernier extrait.
Oui, Alfred, ce soir a lieu notre bal annuel. Jusqu'à l'aube, vous pourrez danser. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que vous serez là dans vos petites menottes? Donnez, montrez-moi. Alfred, montrez-moi.
C'est un manuel de séduction, hein. Je crois qu'il a dans ses petites menottes. Donc, eh bien, là, c'est un vampire homosexuel, ce qui est, bon, assez rare, mais pas si rare. Il paraît que dans les films de la Hammer, il y avait aussi ça. Donc
oui,
tu as trouvé...
c'était plus un sous-texte. Que des,
oui,
voilà, c'était pas clairement annoncé. Voilà.
Là, c'est
comme
clairement.
Ça. Là, c'est clairement annoncé, donc c'est le bal des vampires de Polanski.
Donc, c'était la fin de ce blind test spécial vampire, évidemment. J'ai exclu plein d'autres films, mais un autre blind test pourra revenir d'ici l'année de Cinérama.
This
is Cinérama.
Nous avons ressorti des archives de Cinérama, un blind test consacré aux vampires.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine, chacun avec notre série. Ce sera quoi pour vous?
Ce sera Revenge de Coralie Farja.
Et puis toi, Guillaume?
Eh bien moi, je vous envoie vers un passé virtuel qui va nous parler de 2024.
Et puis moi, je vous parlerai des génériques selon Godard.